Des mains de Martin Lartigue, une émission proposée par Radio Uze, la radio du festival d'Uzest, pour Alternante FM, 98.1 à Saint-Herblain, 91 à Cambon.
Radio Uze,
Uzest musical, 41e Estellada de la Sarthe, du 10 au 18 août 2018.
J'ai rendez-vous avec un personnage important de cette histoire de l'Estellade, Martin Lartigue. Martin Lartigue, il est l'image du festival et il est l'image également de la compagnie Luba parce qu'il a réalisé un bon nombre de pochettes de disques. Vous êtes ponctuel, vous, Martin ?
Oui, toujours. Je suis même des fois à l'avance.
Qu'est-ce que vous êtes en train de lire ?
J'ai pris l'établi, là, pour... Parce qu'il y a la lecture tout à l'heure, non, c'est pas ça, je vais pas faire la lecture, mais je voulais me rafraîchir la mémoire avec le film de Robert Linard sur les ateliers Citroën, 38, enfin voilà, c'est... Je voudrais relire ça.
Vous avez une de chevaux ou une Citroën ?
J'en ai eu pas mal, ouais.
Des deux chevaux ou des Citroën ?
Des deux chevaux.
Décapotables ?
Ah oui, décapotables et fourgonnettes surtout. Puis on pouvait dormir dehors, derrière quoi. C'était déjà très confortable et puis ça allait partout quoi. J'avais déjà pris la liberté avec ça.
Et on y mettait, vous y mettiez des tableaux ?
Bien sûr, les tableaux. Vous pouvez peindre. Moi j'ai commencé à peindre, mon père il était peintre et il m'a appris à aimer ça. Et on peignait sur le motif, ce qu'il disait, dehors, quoi. Moi, j'ai appris à peindre en faisant des paysages et des trucs comme ça, ouais. Pendant un moment, j'ai fait ça.
Bon, alors, on va pas rester dehors parce qu'il y a un peu de vent. Et puis, c'est le dedans de l'estaminet qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dans cet estaminet. Bon, on rentre là tout de suite dans la librairie. Il faut expliquer, Martin Lartigue, vous êtes l'image du festival.
Eh bien, en fait, quand je suis arrivé ici, vers 92-93, Bernard il m'a demandé de faire l'affiche. Parce qu'il n'y avait pas de personne attitrée à ça. Il y avait des affiches, mais voilà. Et donc, j'ai fait ma première affiche. Ça devait être la 17e, un truc comme ça. Et c'était tout de suite quelque chose... où je suis rentré graphiquement. Alors, ça n'a pas tellement changé, d'après moi, depuis. Mais elles ont toutes été différentes, mais je crois qu'on retrouve... Alors, le but dans l'affiche, c'était pas que ça ne soit pas représentatif d'un festival comme les autres affiches, où il y a toujours un peu de trucs sur le jazz et tout. Là des fois, c'était complètement en dehors du sujet. Mais il fallait que ça aille avec l'année... L'année que ça représentait, quoi. Alors, c'est des pressentiments d'année, parce que je l'ai fait à l'avance. Suivant l'année, le style de l'année, le festival s'est passé comme ça. C'est un travail qui m'intéresse beaucoup, parce que il faut un peu d'intuition, et puis voilà, c'est un peu un jeu aussi, c'est comme ça. Alors, des fois, ça marche plus facilement que d'autres, et voilà, on est passé par pas mal de stades. Et je ne sais jamais ce que je vais faire pour l'année prochaine, par exemple. Pour le moment, je ne me pose pas la question.
Alors, il y a quelque chose aussi qui caractérise toutes ces affiches, c'est la verticalité.
Ah ben ça, c'est le format. Hein.
Ah oui, c'est le format, parce qu'avant des affiches, ce sont des tableaux aussi.
Voilà. Alors, il y a peut-être une année ou deux où elle était un peu plus carrée, mais on était hors format, c'était compliqué, parce que là, il fallait... Oui. Mais sinon, dans le CD, là, on est dans le carré, quoi.
Alors oui, alors le CD, vous allez peut-être nous... bonjour. Alors ça, c'est le dernier CD c'est Louis Clavis, Bernard Luba, ça s'appelle Impulse ou Impulse, et c'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Là, on est plus dans le carré ou dans le rectangle. Puis il y a le premier, là. Ah oui, alors oui, il faut dire que vous avez réalisé, ouais, celui de la compagnie Luba, le Scatrap Jascogne. Alors parlez-nous-en, là, de cette pochette.
Ben voilà, c'est la première que j'ai fait ici pour la compagnie Luba, vraiment. Ça a été marquant quand même de l'époque, avec ces personnages justement qui étaient plutôt symboliques plutôt que représentatifs.
C'est pas des gens ou des personnages que vous avez croisés par ici parce que vous vivez pas loin d'Uzest. C'est des personnages que vous avez croisés dans cette forêt.
Voilà, c'est plutôt c'est végétal ou bucolique, enfin c'est la forêt, mais c'est plutôt des personnages. Ouais, j'étais un peu dans les. Enfin, je sais pas, moi je voyais ainsi la compagnie du bas comme quelque chose de tribal, voilà, de profond, d'ancien et en même temps nouveau. Enfin, voilà.
On parlait avec Bernard, bah, ici même, là, dans cette librairie, il y a quelques jours, des livres. Et je lui parlais évidemment du livre de Jean Vautrin, La Symphonie Grabuge. Et quand on lit ce que écrit Jean Vautrin sur la compagnie Luba dans la Symphonie Grabuge, on pense à la manière dont vous les avez peints là, sur cette première pochette. Vous avez lu La Symphonie Grabuge ?
Eh bien non, je ne l'ai pas lu. Mais...
Quand vous dites tribal, hein, on peut parler de la compagnie comme une tribu aussi.
Voilà, c'est une tribu de rencontres, peut-être. Plus qu'une tribu réelle, c'est une tribu imaginaire et de rencontres. C'est quelque chose de très profond et en même temps qui doit se retrouver. Ce n'est pas non plus une famille ni quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est des rencontres.
Alors, vous parliez de pochette, vous disiez que la compagnie Luba, là, le Scat Trap Jazz Coin, c'est la première pochette que vous ayez faite pour la compagnie Luba, parce que vous avez fait des pochettes avant pour Michel Gralier notamment, non ?
J'ai fait une pochette pour Michel Gralier, c'était un peu avant. J'avais connu avant, évidemment, Bernard Luba, je l'ai connu à Paris dans les années 70, qui est dit Louis et tout ça. Et je m'étais déjà essayé dans les pochettes de disques à l'époque. Mais c'était des grands formats et ça n'avait pas abouti. Et c'est donc avec Michel, il m'a demandé de lui faire une pochette pour Ferli, son piano solo.
Oui, alors il faut expliquer, Michel Gralier, pianiste, hein, pianiste de jazz, mais pas seulement, compositeur également, avec un univers vraiment personnel. Michel Gralier, qui a joué sur le premier album, je crois, premier album jazz que Bernard Luba enregistre chez Sarava, Michel Gralier, Albiculas, je pense, et Bernard Luba, ça s'appelle Agartha. Et puis Michel Gralier après jouera pendant quelques années avec Magma, avec Christian Vander. Et ensuite Michel Gralier, on le retrouve pianiste de Chet Baker, notamment avec Ricardo Delfra. Et vous l'avez connu où, Michel ?
Eh ben chez Bernard, je l'ai connu chez Bernard à l'époque quand il habitait près de Paris, à Orgeval. Et il habitait aussi Orgeval. Après j'ai habité avec eux un peu, je savais pas où habiter, donc... Voilà, donc il y avait aussi Albiculas et d'autres, voilà. Et je voulais dire que c'est vrai qu'à l'époque, les couvertures de jazz, elles étaient très... C'était des photos, c'était souvent des trucs assez sombres, assez noirs, assez... Enfin, et de faire de l'image comme ça, un peu figurative, un peu naïf, figuratif, abstrait, c'était un peu nouveau, quoi. Et ça a été le style un peu de... Après, que j'ai fait dans l'affiche, mais... Ça correspond aussi à quelque chose qui sort un peu du jazz américain classique, quoi.
Alors vous utilisez là le verbe sortir. Il y a quand même quelque chose, et quand les auditeurs regarderont à la fois la pochette qu'ils doivent connaître, hein, du premier piano Luba solo et puis la pochette de Ferli, il y a des correspondances, alors forcément parce que c'est vous qui avez peint les deux, mais il y a deux choses qui ressortent là pour c'est Bernard Luba qui sort de son piano ou qui est dans son piano, et dans Ferli il y a des mains qu'on pourrait penser être les mains de Michel Gralier qui doivent être au-dessus du piano ou en tout cas à l'intérieur du couvercle du piano, je crois que c'est ça, non ?
Non, elles sont dans le ciel.
Ah, vous voyez ?
Elles sont dans le ciel. C'était assez un peu parti, quoi, un peu barré dans les trucs de Mickey. C'était Bernard, j'ai voulu en faire un personnage piano, c'est-à-dire quelque chose de plus solide, de plus... Comme je me l'imagine. Il y a aussi des mains, mais c'est aussi quelque chose de vraiment là, comme plus terrestre, quoi.
Ouais, improvision, il a les mains sur les oreilles. Ses mains sont des oreilles.
Oui, parce que oui, il est très oreille.
Laisser pousser les oreilles, je crois que c'est une de ses phrases.
Laisser pousser les oreilles, avoir 40 ans dans les oreilles. Enfin, je sais pas, il a pas mal de trucs dans les oreilles. Et donc, oui, les mains, et puis c'est un manuel aussi. Ouais, voilà.
Il se demandait, Bernard Lubat, s'il n'était pas un personnage de fiction. Là, vous en avez fait, en quelque sorte, un personnage de fiction.
Oui, oui, il y en a une autre, là, que je vais vous montrer après, où je l'ai fait sur Improvision, là où il est carrément dans la machine. Il est comme une machine, un robot, mais avec un moderne un peu spécial, quoi.
Il y a d'autres choses à vous. Ah ben oui, il y a d'autres choses à vous ici. Il y a plein de choses ici. Ça c'est la Lutte des Arts. Oui, c'est signé Martin Lartigue. Donc c'est vous. Ça c'est à. Alors voilà un personnage qui lit ou qui est peut-être en train de réfléchir à ce qu'il a lu.
Oui, oui, mais ça c'est des gravures. Oui, alors ça c'est lié à Uzès un peu. Ouais, mais c'est des personnages de poésie, quoi. Comme vous parliez du personnage que j'avais fait sur une affiche qui était un homme licorne.
Oui, il est là-bas, on ira le voir tout à l'heure. C'est vraiment une de mes affiches préférées. Il y en a certains qui sont pensifs, en fait, de vos personnages. Certains semblent être dans leur pensée. Je voyais au Café du Sport une affiche ancienne, à moins que ce soit celle de cette année. Il y a parfois tellement de personnages que on s'y perd. C'est aussi une de vos envies, ça, de perdre le spectateur dans votre peinture.
Ouais, c'est possible. C'est déjà. Moi, j'aimerais me surprendre déjà. Donc, j'essaye de trouver des choses que je n'ai pas fait encore ou que. Et qui me, si ça me surprend moi, ça surprendra peut-être les autres. C'est vrai que je cherche un peu quelque chose de décalé. Je vais pas faire toujours la même chose et puis coller vraiment à la réalité. Je pense que c'est en une autre réalité qu'on peut se rapprocher de la réalité. Enfin, en ce qui me concerne, parce que la réalité elle-même, j'ai du mal à l'appréhender comme elle est, quoi.
Pourquoi est-ce que vous peignez ?
Eh bien, ça, c'est une bonne question.
Merci.
Oui, oui, parce que je fais pas de vélo ni de la musique. C'est parce que c'est muet et que c'est en même temps, pour moi, très bavard. Parce que je mets plein de choses dedans. Puis la couleur est quand même un domaine on n'en a jamais fini, quoi. C'est inépuisable. Après le dessin, moi, c'est intéressant pour moi de dessiner, de mal dessiner presque, de retrouver quelque chose de mal dessiné pour redécouvrir, en dehors, comme j'ai pas fait d'école vraiment. Mais bon, ça correspond maintenant bien à ce qui se passe maintenant. Mais quand j'ai commencé à faire comme ça, c'était pas comme ça. C'était vraiment. Maintenant, on est plus libre quand même. On peut faire un peu de tout. Mais moi, j'aime bien. Et faire une fausse maladresse, c'est-à-dire retrouver quelque chose qui me permet de, en étant maladroit, comme si j'écrivais, comme quand j'écris, maintenant des fois j'écris un peu des trucs qui vont, j'espère que c'est mal écrit, parce que si c'était trop bien fait, ça y est, je serais un professionnel et ça me plairait plus, quoi. Alors voilà, je suis peut-être un éternel amateur professionnel quand même, parce que je fais que ça.
Vous disiez tout à l'heure que c'est votre père qui vous a appris à peindre ou qui vous a appris la peinture. Qu'est-ce qui vous a appris votre père ? Est-ce qu'il a vu vos tableaux ?
Oui, oui, bien sûr, il m'a appris, c'est-à-dire qu'il m'a appris, j'ai appris. J'étais dans ses pattes quand j'étais petit. Enfin, on était plusieurs frères, mais moi, je suis le seul qui restait toujours collé avec lui là-dedans. Après, à un moment donné, on avait besoin de gagner notre vie. On est allé peindre ensemble sur le motif, les paysages, les trucs comme ça. Et bon, parallèlement, moi, j'ai été comédien. Après, j'ai été peintre. Ma mère était comédienne, mon père peintre. Mon père, il m'a un peu influencé. Et puis, je fais aussi de la céramique, de la sculpture. Et ça, c'est un autre domaine, mais qui est quand même toujours dans l'expression. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, il m'a appris à. J'ai voulu trouver mon style, ma liberté à travers. À travers cette discipline qui est quand même solitaire et qui nécessite une manière de vivre qui me correspond, je pense. C'est surtout ça. Je colle plus à cette manière-là que qu'autre chose. C'est pour ça que je fais de la peinture, mais après, le milieu de la peinture, c'est autre chose. Et puis là, le fait, ça, c'est un autre domaine, quoi. Le fait de faire, c'est pas ça, c'est le fait d'exister à le faire. Pour moi, c'est plus un besoin que un besoin de le faire le plus souvent possible pour me retrouver moi-même, pas pour en vivre forcément.
C'est donc une pratique solitaire, un art solitaire, mais qui est destiné à être vu par d'autres, par beaucoup. Non ?
Voilà, c'est comme si on allume un petit truc et puis il doit exploser après. C'est comme un pétard qu'on allume dans un coin, puis il explose plus tard. Voilà. Après, c'est vraiment... Moi, je suis pas quelqu'un qui va expliquer toutes les démarches de ce que je fais, parce que je suis pas toujours là pour l'expliquer. Je crois qu'une image ou une petite sculpture ou une statuette, un truc, c'est à elle de se défendre. C'est elle qui se défend, quoi. Soit on l'aime pas, soit on l'aime, on la comprend. L'image parle d'elle-même. J'avais fait un truc qui s'appelait comme ça. Mais le graphisme lui-même, s'il n'est que graphique, c'est pas mon but. C'est aussi ce qu'il raconte.
Il n'y a pas que des couleurs. Hein. Certains de vos tableaux ici dans la librairie, ils sont en noir et blanc, comme par exemple. Celui-là, là, ce petit... Non, il y a deux personnages, en fait. Vous voyez, je viens d'en voir un autre, à une femme. Mais il y a un homme en béret, on dirait un petit garçon.
Oui, d'ailleurs, c'est mon père quand il était petit, au Pays Basque. Il me racontait qu'il était au Pays Basque. Et puis, voilà, ça part d'anecdotes ou de fausses choses vécues ou de mise en scène. C'est des prétextes à me faire vivre, quoi.
Alors ça s'appelle Too Pity, ça me rappelle une chanson écrite par Eddie Lewis pour son père, hein, et que reprend souvent Bernard Lubat. Moi je suppose que la proximité et l'amitié avec tous ces musiciens, votre présence à Uzest, ça a nourri également votre travail.
Oui, tout à fait, c'est une présence plutôt parallèle, enfin c'est quelque chose de... Je ne suis pas non plus toujours fourré, j'ai un contact spécial. C'est vrai que ça m'a beaucoup marqué les années début 60, 70, je veux dire, le River Bop et tout ça, quand j'allais les voir avec mes yeux hagards la nuit, qui jouaient comme des bêtes. Et voilà, ça m'a marqué, ça m'a influencé dans moi. Et puis c'est cet esprit aussi qu'il y avait à ce moment-là, quoi.
Alors quel esprit il y avait ?
Bah, qu'on retrouve bien chez Bernard quand il parle et qu'il part dans des choses qui maintenant qu'on continue aussi, qu'on retrouve chez Maviel ou d'autres espèces de sous-réalisme, de surréalisme, quelque chose qui me convient très bien, qu'on retrouve beaucoup dans les autres spectacles du Zest, avec beaucoup d'humour et en même temps un sérieux sur la question à quoi sert l'art et qu'est-ce qu'on fait dans ce monde absurde. Si on n'est pas absurde nous-mêmes, il faut en faire quelque chose de cette absurdité. Et donc même ce côté pataphysique un peu qu'il a, que je connaissais aussi quand j'étais petit avec des amis de mon père qui venaient du surréalisme et tout ça, je trouve que c'est une continuité de ça.
Chez vous, dans votre peinture, on retrouve aussi des choses de Gaston Chessac, ses formes notamment. Il y a une proximité également.
Bah, Gaston Chessac, c'est très fort. Hein. C'était un autodidacte. Ça a dû être dur pour lui. Je ne sais pas si je suis aussi libre que lui, mais voilà, il a montré un sens de la liberté et marginal quand même par rapport au système. Surtout ça, quoi, parce que c'est difficile de ne pas être écrasé ou pris dans quelque chose. Hein.
Gaston Chessac, qui peignait des portes, notamment, et puis il vendait des portes peintes à des paysans, etc., qui venaient faire des travaux chez eux ou qui lui vendaient des œufs ou je ne sais quoi, et maintenant, ces portes valent des millions. Quoi.
Et oui, c'est ça. Et déjà, à l'époque, je crois qu'il avait eu des problèmes avec... du buffet, là, parce que c'était une question de récupération et de nomenclature, parce que ça aussi, il faut pas... Moi, je veux pas me retrouver comme art brut ou art singulier ou art machin. On est ce qu'on est, quoi. L'art est mondial, en plus. Il y a des trucs partout. Faut se méfier, parce qu'on sait jamais ce que fait l'autre. Et en plus, on trouve toujours des similitudes partout. Ce qu'on fait, ça a déjà été fait souvent, mais pas forcément par soi-même. Alors déjà, de le redécouvrir soi-même, c'est quelque chose.
Vous vous voyez des fois dans... Enfin, est-ce que vous voyez votre travail dans d'autres tableaux, des tableaux qui font partie de l'histoire de la peinture, des tableaux que vous aviez jamais vus ou pas connus? Est-ce que des fois, vous retrouvez des choses qui vous correspondent?
Oui, tout à fait. C'est ça qui m'intéresse vraiment, des fois. Ça m'intéresse plus, des fois, de me retrouver dans les autres que dans ce que je peux faire. Parce que là, c'est bien fait, c'est bien réussi. Par exemple, si je vois quelque chose qui me correspond, ça me surprend, et ça me surprend très agréablement, au contraire. J'aime beaucoup ce que font les autres. J'aime beaucoup découvrir des peintres, surtout des autodidactes. Je trouve qu'il y en a des formidables, et vraiment. Parce que c'est bien d'avoir de la culture, de tout savoir. Enfin, de tout savoir. Moi, j'ai été beaucoup dans les musées. J'ai beaucoup de chance parce que j'étais avec des parents qui étaient cultivés. Après, quand on sait beaucoup de choses, il faut quand même les oublier pour pouvoir refaire quelque chose. Et tout en les aimant, en les rejetant pas. Mais je pense qu'un vrai autodidacte qui n'a pas de culture, il est débarrassé de tout ça. Il peut très bien agir sans principe et sans culpabiliser ou quoi que ce soit.
Vous êtes libre quand même, vous?
Ah ben bah oui, c'est-à-dire que je suis obligé à chaque fois de me re... c'est pour ça que la terre, par exemple, la sculpture, il n'y a aucun problème, c'est direct, hop, on y va. Alors le dessin, pareil, c'est une écriture directe. C'est... Après, ce qu'on contient comme influence, et bah, des fois ça ressort, c'est obligé, mais est-ce que c'est vraiment un défaut? Non, c'est une interprétation, c'est tout.
Pensez aux portes. Vous avez déjà peint sur des portes, peint des portes, vous, Martin Lartigue?
Ah oui, j'ai déjà peint et pris la porte. J'ai peint des portes qui n'existent plus ou qui sont dans des jardins. Mais quand je suis arrivé ici, à Sors, là, dans les Landes, j'ai peint les portes, toutes les portes de la maison. Et j'ai peint quelques murs, pas assez, mais c'est vrai que ça, c'est un très beau travail, hein.
Alors évidemment, vous ne les avez pas peintes comme moi je les peindrais, ces portes ou ces murs. Vous y avez mis vos personnages, vos peintures dessus.
Oui, alors soit très moderne, comme là, des morceaux de figuration, ou des trucs un peu symboliques. Ou alors là, si j'essaye d'être décoratif, alors là c'est un autre domaine. Pourquoi pas, hein. Quand je suis arrivé ici, je m'influençais un peu des Landes, enfin de l'esprit... paysans d'ici, enfin, automatiquement quand même, j'aime les paysages aussi, j'aime la nature, et je trouve que c'est important de regarder aussi là où on vit, quoi.
Je parlais de verticalité, vous m'expliquiez que c'était parce que c'était le format qu'on vous demandait sur l'affiche, mais je pense aussi quand même que la verticalité, il y en a beaucoup chez vous. Vous voyez ça, par exemple, le tout petit, là, votre père, dans ce village basque, il y a de la verticalité aussi. Les Landes, c'est quand même horizontal, non?
Ça dépend, si on voit les troncs des pins, c'est vertical, et c'est même presque carcéral, parce que c'est carrément des barreaux, et les maisons à colombage, plus les pins... plus les lignes comme ça de la lumière et les ciels extraordinaires qui prennent toute la dimension. Non, c'est difficile de peindre soit carré, soit en hauteur, parce qu'on ferme tout de suite le truc. Donc après, à l'intérieur, il faut se débrouiller pour libérer tout ça, quoi.
Votre peinture, elle dépasse, alors vous nous l'avez expliqué, elle dépasse la toile, puisque vous n'avez pas hésité à peindre sur autre chose que de la toile, hein, sur de la pierre, sur des murs, hein, sur du bois. Vous avez peint sur autre chose également?
Je ne peins pas beaucoup dans les rues parce que j'y suis pas trop, mais c'est vrai qu'on pourrait peindre sur les arbres, on pourrait peindre ailleurs, mais c'est vrai que moi je suis quand même resté sur le papier, la toile, parce que c'est pratique aussi. Parce que j'ai peint des panneaux en bois, mais après, voilà, ils restent là où ils sont. Non, c'est les supports, ça fait faire un autre travail. C'est bien comme approche de travailler sur différents supports.
On va sortir de la librairie, on va aller à côté, parce que justement, vous avez des... Alors ça, c'est à vous également ?
Ça, oui, c'est un robot.
Un robot pendu ?
Bah, il est pendu pour le présenter, sinon il n'est pas présentable. Et voilà, alors il est un peu blanc-blanc-rouge celui-là. Mais le bleu-blanc-rouge, c'est pas si moche, hein. c'est ce qu'on en fait. Alors là-bas, il y en a d'autres, c'est fait avec des résidus de menuiserie.
C'est la même famille, pour être frère, c'est de là le marron au fond de là.
Des robots.
Des robots.
Primitifs.
On est rue Faza. On rentre dans le bar. Ah voilà, ça sont des totems.
Voilà, ça c'est un totem avec que des lettres, un texte dont je me souviens plus parce qu'il faut tourner autour et là on peut pas. Et là il y a des têtes
avec tête d'homme ou de femme. Parlez-moi du bois. Alors ce bois vous le coupez, vous allez le choisir quelque part. C'est quel bois, vous en souvenez?
Ça c'est du chêne. Bah, là c'est quand je suis arrivé dans les Landes que le bois m'a... Parce qu'il y a du bois partout. Et puis il y avait des arbres qui tombaient sur le terrain, alors il fallait les couper. Alors, donc c'est les arbres que j'ai connus en morceaux ou avant. Et il y a de l'acacia, du chêne et du pin.
Alors celle-là, c'est une deux têtes. Apparemment, vous avez eu un problème parce qu'il y a un os dans votre travail. Vous êtes tombé sur un os.
Oui, et normalement il y a deux os. Enfin, il y en a un qui a dû partir dans un ragoût, je ne sais pas. Et l'autre, c'est des têtes en même temps qui chantent, qui peuvent chanter ou manger un os.
Et c'est un os de quoi ?
Oh, de dinosaures, peut-être.
Ah ouais, d'accord, très bien. Donc vous êtes aussi, comment on dit ça, paléontologue.
Voilà, ouais, pour l'avenir, ça compte. Il faudrait que chacun devienne archéologue et en même temps psychologue.
Toujours un totem, la bouche ouverte. Il y a toujours des orifices, hein, quand même. Il y a très souvent des orifices, hein, des yeux, une moustache. Et puis, alors ça pourrait être un téléphone, non ? Il y a des touches, non ?
Ah oui, ou un accordéon d'ailleurs.
Ouais. Ou des fromages de chèvre.
Voilà, c'est parce que c'est des motifs. Dès qu'on reprend un matériau, il revient les mêmes. Les mêmes choses comme dans tous les artisans du monde. Avec la terre, c'est pareil. On retombe sur les mêmes motifs ou les mêmes trucs. Sans réfléchir, on réinvente les choses qui ont déjà été inventées.
C'est un seul et même bois, un seul et même tronc ?
Oui, c'est pour ça. C'est comme des totems, ouais. Mais on peut appeler ça un morceau de bois, sculpté aussi.
Il n'y a jamais de rajout ?
Pas trop. Non. Il pourrait, ça dépend de la démarche. Voilà, là c'est...
Alors, sortie publique, joli ciel en logiciel. Donc ça, c'est une peinture de vous.
L'improvisation et l'ordinateur.
Pardon ?
L'improvisation et l'ordinateur. C'est une image que j'avais faite pour un article. Enfin, le...
La compagnie Luba et le Scream.
Oui, voilà.
Alors là, il y a peut-être des robots. On a l'impression que, par exemple, vous voyez ce petit personnage là est en métal, c'est peut-être une caméra en fait, une caméra vivante.
Voilà, et là encore, alors là, le Luba mécanique manuel a plein de mains et des phares à la place des yeux. Enfin là, c'est vraiment, il est vraiment transformé en animal créateur, et plutôt mécanique aussi.
Je crois qu'on essayait de vous appeler, j'ai entendu un portable là. Vous voyez, c'est pas peut-être votre totem là qui j'avais peut-être raison, hein, vous voyez.
Oui.
Alors en parlant de phénomènes, alors surnaturel, je vais dire non, totalement naturel, vous voyez. J'ai vraiment l'impression que il y a deux jours, on voyait cette tête là, avec ce casque. Oui, il y a du métal sur celle-là. Et il boude ou alors il est puni. Oui, on pourrait la tourner si on voulait, non ?
Oui, elle a deux faces.
Et on la tourne, elle a tourné.
Une face moins vivante.
Elle tourne toute seule parfois, c'est...
J'aimerais bien qu'elle tourne un peu, ouais, parce que là, c'est vrai, elle est un peu privée de mouvement. Là.
C'est une de mes affiches préférées que vous avez faites. C'était pour la 21e édition du Zest Musical. C'était en 98, du 16 au 23 août 1998. Il y a une licorne. Alors, une licorne que je voyais assoupie, mais elle n'est pas assoupie. On dirait qu'elle est chafouin, elle est peut-être un peu en colère ou alors pensive. C'est une licorne que vous avez élevée. Auparavant, vous l'avez connue toute petite, vous l'avez engraissée un peu et puis après elle a posé pour vous.
Je ne sais pas si elle se laisse apprivoiser parce qu'elle est quand même à l'air un peu dans son coin. C'est bien quelqu'un d'ici, quoi. Enfin de la forêt, je veux dire. Et parce que ces arbres, son univers, c'était un peu une réflexion sur. À l'époque, il y avait beaucoup de folies sauvages, ce qu'ils appelaient ici là, les spectacles dans les bois, dans la nature, avec des petites découvertes. C'était super, des trajets. Les gens, ils avaient à marcher et à découvrir des situations, des musiques, des bruits, des fois de tout, quoi. Intégré dans la nature, avec les éclairages naturels et tout ça. Donc là, c'était un peu dans l'esprit de ça. C'est la nature qui réserve ces choses, avec ses mystères, quoi.
C'est une licorne maquillée également, vous l'avez maquillée, ou elle s'est maquillée toute seule.
Ah, c'est de la lumière là, qui l'a maquillée un peu, ouais. C'est ce côté intrigant, quoi.
Ah ben voilà, c'est l'affiche dont je vous parlais, qui est sur une des portes du Café des Sports. En plus grand, c'est celle-là. Là, on sent un peu de colère dans ce qu'on pourrait penser être un masque, mais en fait, c'est un personnage comme les autres. De la colère, vous mettez ça des fois dans vos tableaux ?
Oui, enfin, ou un cri, quoi, plutôt, là, c'est un cri. Oui, oui, ben ça correspond aussi des fois où il y a des expressions qui vont loin, hein, des fois la libération du son, des trucs. Donc là, c'était un peu mise en image de. Et puis aussi par rapport au festival. Pareil, c'est pas un festival comme un autre. Donc là aussi, c'est par rapport. Là, il y a celui qui se ferme les oreilles, celui qui se ferme les yeux, et celui qui se ferme la bouche, les fameux trois singes, là. Et, bon, par rapport à un peu à la situation du festival, quoi. Et avec celui-là, avec l'autre qui hurle, quoi. Ça crie plus. C'est pour essayer de mettre en son les images.
Je suis ravi parce que c'est la première fois que je vous rencontre. Je connais votre travail, mais je ne vous connais pas. Vous me semblez être quelqu'un de très discret, mais pourtant, vous êtes partout à Uzest.
Ah oui, c'est vrai, ouais, parce qu'on m'a donné la permission enfin, c'est venu tout seul.
Alors, on est rentré, là, on va monter vers les bureaux de la compagnie Luba. Il y a là, ce sont des ébauches,
Des projets d'affiches. Alors, on peut voir que pour faire une affiche, on passe par plusieurs, des fois, pour arriver à l'idée finale, on passe par plusieurs stades.
Alors ça, c'est des projets que vous avez proposés, qu'on a refusés, ou alors que vous les avez montrés en vous disant que non, c'est un premier travail et puis ça sera pas forcément celle-là.
Oui, oui, bah, en fait, si, il y en a une qui a été prise. Mais
la 29e, Estella de las Artes, oui.
Voilà, alors la finale, je sais pas où elle est.
Ouais, mais il me semble, elle n'est pas toute là-haut, là ? Non, c'est pas celle-là, quand même. Hein ? Il y avait un personnage comme ça, dessus ?
Oui, 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 un personnage qui a avancé. C'était à un moment donné où le festival se déplaçait dans un autre village. Alors, c'était une espèce de mouvement comme ça, parce que là, par exemple, là, c'était à Villandreau. Des fois, Uzest a été ailleurs, quoi.
C'est pas votre père qui aurait grandi, ça ? Ce personnage, tout à l'heure on était dans un village basque et votre père là aurait grandi, serait devenu un géant. C'est pas le tout petit de tout à l'heure.
Ah non, c'est un personnage qui est lié au festival qui va voyager, qui va se déplacer ailleurs, mais voilà.
On dit que ce sont des affiches, mais d'abord ce sont des tableaux, c'est ça?
Oui, c'est des compositions, là, oui, 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 je reste dans le format, je fois je fais un peu plus grand ou plus petit, mais généralement je reste dans le format un peu. Quoique, bon, des fois on a du problème pour le caser vraiment, parce que quand je le fais, je réfléchis pas trop à ça. Là, c'est un peu plus grand que nature. Ça, c'est un projet, et ça, c'est l'affiche finale.
Pour la 32e Estella de las Arts, du zeste musical Catastrophe et Utopie, c'était du 18 au 25 août 2009. C'est vous qui écrivez aussi, Escapade à Sort, c'est votre écriture.
Oui, oui, c'est mon écriture, et ça, c'était pour en 2009. Alors là, ça correspond à l'année de la tempête, donc elle était très catastrophale, et les couleurs un peu violentes aussi, de feu. Voilà, c'était le thème comme moi j'avais sorti comme ça, j'étais marqué par ça. Donc là, il y a deux projets. Bon, lequel est le mieux, en fait? Est-ce que celui qui a été pris, c'est le mieux? Ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr que les lettres, chaque année, je remets le zeste musical.
Il y a celle-là aussi, là, qui est cachée derrière une porte, qui a dû servir d'affiche aussi, ce personnage, là, avec ses oreilles pointues, un béret. Le béret. Il est à l'intérieur d'une maison, peut-être la maison de la mémoire en marche, à une époque. Beaucoup de choses se passaient là. On y faisait de la radio, d'ailleurs.
Elle était plus carrée, voilà. Celle-là, elle était plus carrée. Oui, ça, c'est un personnage avec les oreilles qui poussent. Et ça, c'était la même, mais je n'ai pas me présenté, en fait. J'ai présenté l'autre.
Vous jouez aux cartes, Martin Lartigue.
J'aime bien les cartes, le graphisme des cartes, mais j'aime pas trop les jeux, non.
Alors pourquoi des cartes? Là, on change vraiment tout à fait d'univers pour le coup. C'est une affiche, hein. C'est la 30e Uzeste musicale. On est vraiment... Alors, il y a vos personnages, hein, il y a vos couleurs, mais elle est plus nue et elle ressemble vraiment à une carte à jouer.
Et ouais, et parce qu'elle est réversible en plus. On peut la voir des deux sens, on peut la tourner. Alors, soit il y a le monsieur ou la dame. Alors, voilà. Bon, c'était... c'est comme ça cette année-là, je suppose. Ça marque quelque chose, je ne me rappelle plus vraiment. Mais c'est la 30e. C'était quand même un chiffre, 30 aussi. Donc, ça devait être un peu symbolique dans le... Et là, oui, je l'avais fait en carte aussi. Parce que je pense aussi au côté... il faut que ça se voie. Il faut... C'est un peu un travail graphique aussi. Alors, les pétards. Parce que c'était à Roquetaillade. Alors, et aussi parce que le château de Roquetaillade, on devait faire un peu dans le côté médiéval de la chose. Et il y avait les feux d'osier très importants à ce moment-là.
Regardez, au pied de votre travail, il y a la moitié d'une fenêtre, d'une petite fenêtre qui semble vous tendre ses vitres et puis ses huies. Elle n'est pas peinte du tout, hein, c'est une fenêtre en bois quelconque. Vous devez sûrement passer à côté d'objets comme ça. Est-ce que vous pourriez en faire quelque chose?
Eh bien, on peut en faire tout à fait autre chose qu'une fenêtre, oui. On peut en faire quelque chose pour faire pousser des plantes. Ouais, c'est joli, hein. C'est beau, hein.
Même sans votre peinture dessus.
Si, on peut y peindre trois vitraux, par exemple.
Vous travaillez également sur le verre?
Oui, j'en ai fait, oui, ou des peintures derrière verre. C'est-à-dire, après, on retourne, ça fait la peinture sous verre. Sur verre. Oui, on peut peindre sur plein de choses. Et bien, j'ai la céramique aussi qui me prend pas mal, parce que là, c'est un autre domaine. Il y a la cuisson qui change tout. Alors, on fait un truc, et puis après, la cuisson, elle transforme la chose. Ça, c'est bien.
Alors, j'ai une idée, parce que je vous voyais, regardez l'heure, là, vous allez voir quelque chose, là, à 15h, je crois.
Oui, je vais aller voir l'établi, le texte dit par Martine Maviel. Pardon, à Magneux. Et donc, je voudrais le voir, oui.
Vous allez y aller en deux chevaux?
Eh bien, non, là, j'ai rien comme voiture en ce moment, mais je vais y aller à cheval.
Un cheval que vous allez sûrement dessiner, dans votre tête en tout cas.
Ah oui, j'en fais pas mal, des chevaux, ou des faux chevaux.
Alors, une dernière question à propos des couleurs. Les couleurs, c'est vous qui les faites, vos couleurs. Vous préparez vos couleurs vous-même ?
Ah oui, ça m'arrive, oui. Là, le spectacle qu'on va... Enfin, le spectacle, c'est pas un spectacle, c'est une intervention qu'on va faire avec Alain Magneux, vendredi, là, à la Grange Viera. C'est avec des pigments que j'ai ramenés du Maroc. Donc, c'est des pigments... Il n'y a que trois couleurs, donc on se débrouille avec trois couleurs. Quand on n'en a que trois, on ne fait qu'avec trois. Et ça, j'aime bien ce principe. Faut se donner un peu des fois des... On n'est pas obligé de peindre avec toutes les couleurs. Hein. Et on dit, ah oui, mais vous mettez beaucoup de couleurs. Mais non, c'est la manière dont on se sert de la couleur qui fait que ça a l'air qu'il y en a beaucoup. Mais s'il y en a 4, 3, 4, 5, c'est la manière de... Si c'est pétard, c'est pétard parce qu'on les utilise à plat ou sans les moduler ou sans les casser, quoi. Pendant longtemps j'ai fabriqué, enfin d'après, avec des pigments, c'est pas moi qui les fabrique les pigments, mais je me sers des pigments avec des liants et je peins avec, au lieu d'acheter des tubes, ça peut être bien, ouais.
Alors, toute dernière question, je vous promets, lors du tilleul, Antoine Chao et moi-même, on avait une discussion à Lucmo sur les tomates, lors du tilleul à un petit jardin, là, au moulin, et elle ne fait pousser que des tomates rouges. Et en parlant, on a parlé d'abyssal, et je me disais que c'était une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il existe une couleur abyssale, ou est-ce qu'une couleur peut être abyssale ?
Abyssale, c'est-à-dire
D'abîme. Non, pas d'abyssal. Hein. Pas des habits qui sont sales. Hein. Une couleur d'abîme.
Qui n'en finit pas.
Comme vous voulez, moi je...
Oui.
Dans laquelle on se perd.
C'est sûr que le rouge, c'est une couleur qui a perdu. Sur laquelle on revient toujours. Moi, je mets beaucoup de jaune aussi. Mais bon, est-ce une qualité ou elle est... Non, je suis pas pour une seule couleur. Parce que le noir peut être une couleur aussi, mais on dit que c'est triste, mais c'est pas vrai, c'est magnifique le noir. J'aimerais pas qu'on les enlève toutes. Enfin, aucune couleur n'existe, c'est ce qu'on en fait qui existe. Si on regarde le ciel, on voit plein de choses, mais en fait, c'est peut-être pas noir. Le bleu, n'en parlons pas. Mais c'est vrai que dans les couleurs primaires, ça sont quand même super. Mais j'aime beaucoup le vert, mais des fois, voilà. Il y a des fois, il y en a trop. Alors, il faut savoir pas en mettre trop. Mais c'est sûr que le bleu revient beaucoup dessus, quoi. Alors, on va dire soit le rouge ou le bleu. Ou le jaune, ou le vert, ou le violet. Ah non, je sais plus. Ou le noir, tiens, allez.
Merci Martin Lartigue.
Radio Uz, la radio des Uz. Écoute.
Martin Lartigue, au micro de Radio Uz, la radio du Festival d'Uzest, une émission réalisée pour Alternante FM. 98.1 à Saint-Herblain et 91 à Cambon.
Radio Uz, Jazz Cogne 98.6.